Bonsoir à tous et bienvenue pour cette première conférence Minerve du cycle 2022-2023. J'interviens en l'absence du général Var, retenu dans le sud-ouest. Et donc, nous allons attaquer avec une conférence sur le retour sur 20 ans de guerre contre le terrorisme. La présentation du livre de Marc Ecker, ici présent, et d'Elie Tenenbaum. Elie Tenenbaum qui s'excuse de ne pas être présent. En fait, il avait été programmé pour une conférence à Londres ce matin. Et donc, dans ce cas, il pouvait rejoindre pour être présent parmi nous. Seulement, encore les Anglais et la perfide Albion, ils ont décalé la conférence cet après-midi. Donc, il n'arrivera qu'à 20h. Donc, il ne pourra pas nous rejoindre. Mais Marc fera forcément bien l'affaire. Marc donc Ecker est donc de l'Institut français des relations internationales. Il est directeur de politique étrangère et il collabore également au Centre des études de sécurité et il est spécialiste du terrorisme. Donc, nul n'est mieux placé que lui pour parler du terrorisme et également vous présenter son livre. Je lui laisse la parole.
Merci beaucoup, Michel. Il y a un téléphone, je ne sais pas si, à qui il appartient. Michel, non ?
Il faut savoir également qu'il y a des filmés, donc on peut reprendre
l'histoire. Oui, effectivement, c'est en ligne. J'espère qu'en ligne, vous nous entendez bien. Mettre plus fort, ça je ne suis pas sûr, mais je vais essayer de parler plus fort. En tout cas, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus ce soir. Merci aux personnes en ligne d'être présentes également, en coupant vos micros, sinon on risque d'avoir des interférences. Merci au colonel Pesquer, Michel, de m'avoir présenté de la sorte. Et je renouvelle mes excuses de la part d'Elie Tenenbaum, qui, lui, est plus spécialiste du contre-terrorisme, de la réponse des armées. Moi, j'ai plus travaillé sur la menace, donc je vais surtout mettre l'accent sur cet aspect-là en touchant un peu à la réponse, mais c'est moins directement mon sujet. Alors, en tout cas, Elie et moi, nous avons écrit cet ouvrage que vous voyez à l'écran, « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle », qui a été publié en avril 2021, et que nous avons mis à jour pour la version de poche qui est sortie il y a un mois. Donc, il s'est en fait passé beaucoup de choses sur le front du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme depuis un an. On en parle étonnamment beaucoup moins depuis février 2022, mais il faut évidemment garder un œil sur ce sujet-là parce qu'il est loin d'être derrière nous, et c'est notamment ce que je vais essayer de vous expliquer et de vous présenter ce soir. J'espère que ma voix tiendra parce que j'ai déjà fait une conférence sur un autre sujet pour l'école de guerre avant. Et oui, je fais ce que je peux, mais je ne sais pas si on peut monter le son. En tout cas, c'est pas moi qui... je ne pense pas que ce soit moi qui commande ça. Je vais parler plus fort en espérant encore une fois que ma voix tienne. Alors d'abord, si ça aussi, ça veut bien marcher, on va voir. Non. Ah, voilà. Alors, d'abord, pourquoi ce livre ? Il y avait un triple objectif dans la publication de La guerre de 20 ans, qui est un ouvrage sur lequel on a travaillé pendant plusieurs années en faisant du terrain dans plusieurs pays et en essayant d'avoir accès aux dernières archives également déclassifiées. Le triple objectif était le suivant. Encore une fois, il faut garder à l'esprit qu'il a été publié en avril 2021, donc on s'approchait du 20e anniversaire du 11 septembre 2001. Le premier objectif, c'était d'écrire l'histoire de la guerre contre le terrorisme, parce qu'en fait, cette histoire, elle n'avait pas été écrite. On a évidemment tous en tête des événements marquants de cette période, les attentats du 11 septembre 2001, les attentats du 13 novembre 2015 et d'autres événements, la guerre en Irak, etc. Mais en réalité, parfois des histoires ont été écrites sur des parties de cette période de 20 ans. Il y a eu des livres en français, notamment sur l'opération Barkhane au Sahel, etc. Mais il n'y avait pas la vision globale. Il manquait cette vision globale en un ouvrage qui permette de retracer 20 années de terrorisme et de lutte contre le terrorisme. Et notre ambition, c'était vraiment de faire cet ouvrage qui puisse servir notamment aux militaires qui préparent des déploiements, peut-être dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le deuxième objectif du livre, c'était d'analyser les dynamiques stratégiques de cette période de 20 ans, parce que la littérature telle qu'elle existait jusqu'alors était très largement divisée en deux spécialités. D'abord, les spécialistes de la menace, du terrorisme, du djihadisme, souvent des personnes connaissant la langue arabe, connaissant une aire géographique particulière, et de l'autre côté, les spécialistes du contre-terrorisme, contre-insurrection, etc. Mais ces champs disciplinaires, en fait, ne se croisaient quasiment pas. Et notre ambition, c'était justement de montrer qu'on est dans un conflit, que dans un conflit, il y a plusieurs parties, et que pour bien comprendre les dynamiques conflictuelles, il faut pouvoir étudier les deux parties à la fois. Et au départ, notre plan d'ouvrage, qui n'a pas été totalement respecté finalement à l'arrivée, mais consistait vraiment à avoir un chapitre sur la menace et un chapitre sur la réponse pour montrer précisément ces dynamiques stratégiques. Le plan s'est un peu complexifié, mais enfin, si jamais vous lisez le livre, vous retrouverez quand même un peu cette clé de lecture. Enfin, le troisième objectif, c'était de tirer le bilan stratégique de la période 2001-2021, parce que précisément, on est dans un conflit compliqué, dont le bilan stratégique n'est pas simple à tirer. Les armées font généralement des retours d'expérience, des rétex sur une opération particulière, mais là, notre ambition, c'était de faire quelque chose qui ne se fait pas généralement dans les armées, c'est-à-dire un rétex stratégique sur une période beaucoup plus large, une période de 20 ans, pour voir ce qui avait fonctionné et puis aussi ce qui n'avait pas fonctionné. On était, quand la première version du livre est sortie en avril 2021, on était avant les événements de l'été 2021 à Kaboul, mais on pressentait déjà que les choses n'allaient pas très bien se passer et on voulait essayer de comprendre pourquoi, dans le fond, des armées matériellement beaucoup plus fortes que leurs adversaires ne parviennent pas à s'imposer. L'objectif de ce bilan stratégique, c'était aussi d'en tirer quelques leçons et quelques recommandations de manière très modeste. Hein. Nous ne sommes que deux humbles chercheurs civils, mais on pensait quand même pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice et à la réflexion. Du coup, pour faciliter la lecture, c'est quand même un ouvrage de 450 pages et on se doute bien que des militaires en opération ou des décideurs en état-major n'ont pas forcément le temps de lire 450 pages. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séquencé l'ouvrage en 5 parties que je vais vous présenter dans un instant. Et à la fin de chaque grande partie, on a 3 ou 4 pages d'enseignement stratégique pour essayer de voir de manière très synthétique ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment les choses pourraient être améliorées. Et pour les lecteurs qui ont un peu plus de temps, qui veulent rentrer dans le détail, on a un déroulé chronologique avec tout un appareil aussi de notes de bas de page, appareil critique, comme on dit dans la recherche, qui permet de retrouver les sources et éventuellement d'aller plus loin pour vraiment les lecteurs très motivés. Alors, les questions qu'on va se poser là dans les minutes qui viennent sont les suivantes. D'abord, est-ce que la guerre contre le terrorisme a pris fin? Ensuite, si elle a pris fin, qui en sont les vainqueurs? Ensuite, quel est l'avenir du djihadisme? Et puis, quelles priorités se dessinent pour notre pays, pour la France? Alors, le premier point qu'il faut avoir en tête, c'est que les attentats du 11 septembre 2001, qui ont été une vraie surprise stratégique, un vrai bouleversement stratégique, ont ouvert un cycle en tant que tel, un cycle qui a duré 20 ans, qui est celui de la guerre globale contre le terrorisme. Ces attentats ont vraiment été un choc, ils n'ont pas été anticipés. Pourtant, on revient dans le livre sur un certain nombre d'éléments avant-coureurs qui étaient présents, notamment dans le PDB, le President's Daily Brief, qui est fourni quotidiennement par les services de renseignement américains au président des États-Unis. Il y avait eu, après l'arrivée de George W. Bush à la présidence, quelques mois avant ces attentats, plusieurs alertes émises dans le PDB avec la mention spécifique d'Al-Qaïda. Mais ce qui était attendu, c'était plutôt un attentat contre les intérêts américains à l'étranger. Il y en avait eu plusieurs dans les années précédant le 11 septembre 2001, les attentats de Nairobi et Dar es Salaam en 98 contre les ambassades américaines, l'attentat contre l'USS Cole dans les eaux territoriales du Yémen. Donc, c'est plutôt un événement de ce type-là qui a été attendu qu'un méga attentat au cœur de la puissance américaine. Donc, cet attentat a été une surprise stratégique et il a changé complètement la perception du terrorisme. Jusqu'alors, les attentats terroristes faisaient au maximum quelques centaines de morts quand un avion de ligne était abattu. Là, on a pour la première fois un attentat qui fait près de 3000 morts, attentat simultané avec une innovation tactique majeure qui est que des avions de ligne, dans le fond, étaient utilisés comme des missiles balistiques. Ça n'avait jamais été pensé auparavant. Enfin, si, ça avait été pensé, notamment par les membres du GIA, du groupe islamique armé, qui voulaient projeter un attentat contre la tour Eiffel en 1995, mais ils n'avaient pas réussi à le faire. Là, ça a non seulement été pensé, mais ça a été réalisé. Donc, on a un changement majeur, avec l'idée en plus à l'époque, comme il s'agit d'une surprise, que peut-être le pire est encore devant nous. Et donc, on s'attendait à l'époque à ce qu'il y ait éventuellement un cycle d'hyper-attentats. Moi, je dis souvent que le 11 septembre a ouvert le champ des possibles, c'est-à-dire que avant le 11 septembre, si quelqu'un était arrivé dans un bureau du Pentagone ou de la Maison Blanche en disant « je pense qu'il va y avoir 4 avions de ligne qui vont se crasher contre les symboles de la puissance militaire, économique, politique, etc. », on l'aurait pris pour un fou. À partir du 11 septembre, cette désignation de fou n'était juste plus possible. Donc, on a fait des scénarios, y compris en France, dans des instituts de recherche, partant vraiment de toutes les hypothèses imaginables, y compris les pires. Et il n'était plus possible de dire après le 11 septembre, c'est impossible. En revanche, on pouvait dire c'est hautement improbable, mais on était obligé de prendre en compte ces scénarios et de les travailler, de s'y préparer. Donc, on s'est préparé notamment à des attentats nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques, etc., en se disant que certes, la probabilité était faible, mais que ce n'était pas impossible. Ce 11 septembre donc, a inauguré un nouveau cycle qui est celui de la guerre globale contre le terrorisme, parce que les États-Unis ont immédiatement réagi en percevant ces attaques comme un acte de guerre et en décidant que la meilleure manière d'y répondre, c'était de répondre par une guerre. Et ça a été le concept donc, de GWAT, Global War on Terror, qui a été développé par l'administration américaine de l'époque et exposé très rapidement après le 11 septembre, notamment dans un discours au Congrès de George W. Bush, dans lequel vraiment il pose les bases de cette guerre globale contre le terrorisme, en expliquant que Al-Qaïda est à l'origine de ces attaques, que l'objectif de la guerre contre le terrorisme est de détruire Al-Qaïda, mais l'objectif n'est pas que de détruire Al-Qaïda, c'est aussi de détruire tous les groupes, tous les États et tous les individus qui soutiennent Al-Qaïda, et l'objectif est aussi de détruire, je cite, « tous les groupes terroristes de portée globale ». Donc là, c'est une expression extrêmement vague, et surtout, il n'y a pas non plus de limite géographique à cette déclaration de guerre globale contre le terrorisme. Et George W. Bush obtient du Congrès une autorisation d'utiliser la force militaire, AUMF, extrêmement large, sans limite de temps et sans limite géographique. Le premier théâtre de cette guerre contre le terrorisme, c'est l'Afghanistan, hein, qui s'ouvre dès octobre 2001 avec l'opération Enduring Freedom, qui est marquée par une efficacité militaire remarquable dans un premier temps, puisque le régime des talibans est balayé en quelques semaines et un nouveau régime est mis en place. Évidemment, on va s'apercevoir après coup, dans tout ce cycle de 20 ans, que la première phase, entre guillemets, de ce type d'opération est, entre guillemets, relativement facile, renverser un gouvernement en place, mais le plus difficile, ce sont les phases suivantes, les phases post-conflit, où il s'agit d'assurer une stabilité, d'assurer que les groupes terroristes ne reviennent pas, mais surtout qu'une gouvernance soit mise en place, gouvernance qui permettra de traiter les griefs des populations et de tarir le terreau favorable à la résurgence des mouvements insurgés ou terroristes. Et ça, c'est ce qui n'a pas été réussi, mais je ne vais pas anticiper les étapes. Donc, 2001, les talibans sont renversés, les camps d'entraînement d'Al-Qaïda sont détruits, On estime que 80% des combattants sont neutralisés. C'est un coup très dur pour la mouvance Al-Qaïda. Et on s'en est rendu compte, en fait, tardivement, quand je disais que dans le livre, on essaye d'avoir accès aux dernières ressources, aux dernières archives déclassifiées, etc. C'est une histoire qui n'est pas terminée. Il y a quelques mois maintenant, a été publié un ouvrage aux États-Unis qui s'appelle The Bin Laden Papers, qui est l'analyse par une chercheuse qui s'appelle Nelly Laoud, des documents qui ont été trouvés à Abbottabad en 2011 dans le raid des forces spéciales américaines, les Navy SEALs, qui a permis de neutraliser Ben Laden. Cet ouvrage est sorti plus de 10 ans après la mort de Ben Laden et on y apprend des choses qu'on ne savait pas. Et parmi les éléments alors qu'on pressentait, mais qui sont très clairement explicités dans cet ouvrage, on voit la manière dont la réaction en septembre, cette opération Enduring Freedom, a mis Al-Qaïda dans un état de détresse réelle. L'organisation était vraiment éclatée et ils ne savaient pas à l'époque comment ils allaient pouvoir se relever. L'organisation était y compris éclatée physiquement, puisque vous aviez des membres d'Al-Qaïda qui étaient partis au Pakistan, et quand les Pakistanais se sont mis à les arrêter, la route s'est quelque peu fermée pour ceux qui étaient encore en Afghanistan et qui se sont plutôt orientés vers l'Iran. L'organisation était dans une situation extrêmement difficile à ce moment-là. Ce qui lui a permis en fait, de se relancer, ça a été l'erreur stratégique majeure des États-Unis en cette première phase de guerre contre le terrorisme, ça a été la guerre en Irak. La guerre en Irak de 2003 a été conduite sous des motifs fallacieux, deux motifs essentiellement, la présence d'armes de destruction massive en Irak d'une part et les liens supposés entre Saddam Hussein et Al-Qaïda d'autre part. Sur le moment, on ne savait pas forcément que ces liens étaient fallacieux, même si que ces arguments étaient fallacieux, même si la France a essayé de le démontrer et s'est engagée contre l'intervention. Vous vous souvenez sûrement du discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Mais le fait est que l'intervention a quand même eu lieu, sans soutien onusien, avec l'opposition de la France, de l'Allemagne, etc. Et elle a abouti très rapidement à une sorte de prophétie autoréalisatrice, puisqu'il n'y avait pas de lien à l'époque entre le régime de Saddam Hussein et Al-Qaïda, mais en revanche, le renversement du régime de Saddam Hussein, la déstructuration des services de sécurité a profité au final aux groupes djihadistes qui ont afflué sur place, en particulier le célèbre groupe de Zarqawi. Zarqawi lui-même, il faut le dire, était quand même présent en territoire irakien avant l'invasion américaine, et c'est un des arguments qui a été utilisé par l'administration américaine pour justifier ce prétendu lien entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. En réalité, il n'y avait pas de lien entre eux, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il était présent sur le territoire qu'il y avait un lien opérationnel entre lui et le régime de Saddam Hussein. Mais le fait est que très vite, la situation a complètement échappé aux États-Unis avec une situation qui s'est dégradée. Au début, les États-Unis ont perçu cette dégradation de l'environnement sécuritaire comme une forme de queue de comète du régime bassiste de Saddam Hussein. En réalité, ils se sont rapidement rendus compte que si ce facteur existait réellement, il y avait aussi une mouvance djihadiste qui profitait de cette déstructuration pour monter en puissance, pour faire venir des combattants du monde arabe et même au-delà. On a vu déjà des combattants français présents en 2003-2004 sur cette zone irakienne, notamment la fameuse filière des buts de Chaumont, à laquelle appartenait un certain shérif Kouachi, qui 10 ans plus tard a perpétré la tuerie de Charlie Hebdo. Donc très vite, la situation a échappé aux États-Unis avec des attentats qui se sont multipliés, qui ont ciblé des institutions très diverses. Évidemment, ils ont ciblé les États-Unis et l'armée américaine présente sur place, mais aussi l'ONU. Vous vous souvenez sûrement que Sergio Vieira de Mello, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, a été tué à l'époque dans un attentat. Vous vous souvenez sans doute aussi qu'il y a eu de multiples attaques contre des organisations internationales, des ONG, des journalistes, etc. Mais surtout, ce qui a caractérisé d'un point de vue peut-être plus marquant pour la société irakienne cette période, ça a été le fait que Al-Qaïda en Irak, qui a été la première filiale d'Al-Qaïda, créée donc en 2004 dans cette zone, Al-Qaïda en Irak s'est lancé dans une véritable guerre civile en ciblant les chiites. Et donc, à partir de là, l'Irak a véritablement sombré dans une spirale de violence intercommunautaire, intersectaire, et les États-Unis n'ont pas réussi à la maîtriser jusqu'en 2006. 2006, année importante, parce qu'il y a un coup d'éclat du contre-terrorisme américain avec l'élimination de Zarqawi, donc le chef d'Al-Qaïda en Irak, et année importante aussi parce que les États-Unis reconsidèrent leur stratégie et en vue d'essayer de stabiliser cette zone, mais aussi l'Afghanistan, où la situation sécuritaire était à nouveau en train de se dégrader avec le retour de ce qu'on a appelé les néo-talibans, les États-Unis ont adapté leur stratégie en passant d'une stratégie militaire très classique, centrée sur les réseaux, comme on dit network-centric warfare, à une stratégie beaucoup plus centrée sur les populations, population-centric warfare, où il s'agissait dans le fond de vaincre l'insurrection en essayant de, je cite, « gagner les cœurs et les esprits de la population ». Donc, le constat qui était fait à l'époque, c'est que le centre de gravité de ce conflit, de ce type de conflit, ce n'était pas les institutions politiques classiques ou telle ou telle base militaire ou que sais-je, c'était la population. Et que pour gagner ce conflit-là, il fallait « conquérir » entre guillemets la population, obtenir son soutien en prouvant une sorte de légitimité. Et pour obtenir cette forme de légitimité auprès de la population, et donc pour légitimer les gouvernements qui avaient été mis en place en Irak en remplacement de Saddam Hussein et en Afghanistan en remplacement des talibans, eh bien, il s'agissait d'abord d'apporter la sécurité, donc de déployer des troupes au sol pour sécuriser notamment les zones urbaines. Et ensuite, il s'agissait d'apporter des services, d'apporter de la gouvernance, donc de remettre en place une justice fonctionnelle, de remettre en place des marchés, de remettre en place tout ce qui fait l'environnement quotidien d'une ville à peu près normale. Et les États-Unis, qui ont donc produit une nouvelle doctrine de contre-insurrection à l'époque qui s'appelait le Field Manual 324, ont parlé dans cette doctrine de, je cite, « travail social armé » et se sont beaucoup inspirés des précédentes pacifications en période coloniale à la fois britannique, en citant notamment T.E. Lawrence, Lawrence d'Arabie, mais aussi des précédents français, notamment Lyoté et Gallieni, mais aussi Galula qu'on a redécouvert en France par le biais des États-Unis qui ont à l'époque ont retrouvé ces écrits de la période de la guerre d'Algérie. Cette stabilisation, elle a plutôt bien fonctionné, surtout en Irak, avec deux éléments assez décisifs, d'abord, et qui ont été à peu près concomitants, d'abord le surge, c'est-à-dire l'augmentation des troupes, augmentation consentie notamment par George W. Bush, ensuite par Barack Obama, et aussi par ce qu'on a appelé le réveil des tribus, notamment de l'Anbar, c'est-à-dire la capacité à retourner un certain nombre de tribus sunnites qui étaient favorables à Al-Qaïda et qui ont changé d'allégeance et qui ont décidé de soutenir le gouvernement qui avait été mis en place après la chute de Saddam Hussein. Et ce double concours de circonstances a fait que la situation s'est effectivement améliorée et on a vu le nombre de pertes américaines, notamment, mais aussi dans la population civile, décroître progressivement. Pardon, je vais boire un peu parce que sinon je ne vais pas tenir. En 2008-2009, il y a un élément exogène qui intervient, qu'il faut garder en tête, qui est la crise financière. Et à partir de là aussi, un discours qui se développe de plus en plus sur le fait que ce sont des guerres lointaines, coûteuses, et que peut-être il pourrait être plus judicieux de garder ses ressources pour des projets d'infrastructures en interne, pour aider les Américains, pour réindustrialiser, etc. Et c'est un discours qui est resté vraiment, je pense, assez longtemps en filigrane de toutes les réflexions sur ces guerres, que ce soit celle d'Irak ou celle d'Afghanistan. Et Obama s'était juré, enfin c'était une promesse de campagne, de terminer ces guerres lointaines. Et au final, il a quand même consenti à des efforts militaires supplémentaires, convaincu par un certain nombre de ses conseillers militaires, que ça valait quand même la peine de réessayer, que la période était peut-être plus favorable. Bon, au final, vous connaissez la fin de l'histoire, hein. ça n'a pas véritablement bien fonctionné, mais il y a quand même eu cette période 2009, 2010, 2011, où il y avait un relatif optimisme, et 2011 en particulier, puisque 2011, il y a un double événement, vous vous en souvenez tous. D'abord, l'élimination du chef d'Al-Qaïda, d'Oussama Ben Laden, à Abbottabad, au Pakistan, ce qui a permis aux États-Unis à l'époque de dire que voilà, cette période pouvait toucher à sa fin, que l'ennemi numéro un avait été éliminé et qu'il était sans doute temps de passer à autre chose. Mais le deuxième événement, qui a très largement contrarié à terme ces velléités américaines, le deuxième événement, ça a été une surprise stratégique, encore une, qui ont été les printemps arabes, surprise stratégique complètement exogène, hein. Les djihadistes n'y étaient pour rien, mais les djihadistes ont su exploiter ces printemps arabes, ont su exploiter notamment la fragilisation des appareils sécuritaires pour remonter en puissance, ce qui a largement empêché les États-Unis de refermer la parenthèse de la guerre contre le terrorisme comme ils auraient souhaité le faire, même si en 2011 se produit le retrait d'Irak, mais là aussi sans trop anticiper. Vous savez que ce retrait d'Irak n'a été que temporaire. Puisqu'il y a eu donc une revanche du djihadisme de 2011 à 2014, avec la déstabilisation des pays arabes, en particulier de la Syrie. Syrie qui est devenue l'épicentre du djihadisme dans les années qui ont suivi, avec la présence dès 2011 d'un groupe qui se faisait appeler Jabhat al-Nusra. Et Jabhat al-Nusra, on ne le savait pas à l'époque, mais c'était l'émanation de l'État islamique d'Irak. Ce que je n'ai pas dit, j'aurais dû le faire, c'est qu'en 2006, après la mort de Zarqawi, Al-Qaïda en Irak a changé de nom avec de nouveaux leaders qui ont décidé de proclamer un État islamique d'Irak qui est vraiment l'embryon de l'État islamique en Irak et au Levant, autrement dit Daesh. Donc en 2011, en Syrie, émerge ce groupe, Jabhat al-Nusra, et on ne le savait pas à l'époque, mais on l'a appris par la suite. Jabhat al-Nusra était une tentative d'implantation en Syrie de l'État islamique d'Irak, avec l'envoi par Abu Bakr al-Baghdadi, qui est devenu l'émir de l'État islamique d'Irak en 2010, l'envoi par Baghdadi de quelques-uns de ses proches, pour tenter de développer une sorte d'antenne de l'État islamique d'Irak en Syrie. Mais l'État islamique d'Irak avait extrêmement mauvaise réputation de par sa violence, ses méthodes ultra-violentes et ses échecs de gouvernance. Et donc, pour éviter un rejet immédiat par la population, al-Baghdadi a donné une sorte de carte blanche à une personne qui s'appelle Jolani, qui est donc un de ses proches, pour recréer un groupe sous un nom différent, mais ayant à peu près la même idéologie que l'État islamique d'Irak. Il se trouve que Jolani a réussi à développer son groupe de manière très efficace, notamment en pratiquant les attentats suicides qui n'étaient pas véritablement pratiqués en Syrie à l'époque par l'opposition à Bachar el-Assad et qui ont fait montre d'une certaine efficacité militaire. Et donc le groupe de Jolani al-Nusra s'est développé. Et en 2013, Baghdadi a décidé de reprendre les rênes de cette organisation. Donc, il a fait une sortie publique, ce qu'il n'avait pas encore fait sur ce thème-là jusqu'alors, pour dire que Jabhat al-Nusra était en réalité une émanation de l'État islamique d'Irak et qu'il en reprenait les rênes dès ce jour en créant une nouvelle organisation qui était l'État islamique en Irak et au Levant, EIL, ce qui est devenu donc Daesh. Et Jolani a refusé en fait cette occasion. Il avait pris son indépendance et il en a appelé en fait à Zawahiri, qui était donc l'émir d'Al-Qaïda après la mort de Ben Laden, pour trancher le différend. Et Zawahiri a tranché le différend en disant que Baghdadi devait rester en Irak et que l'État islamique d'Irak devait être la branche officielle d'Al-Qaïda en Irak, et que Jabhat al-Nusra devait rester en Syrie avec Jolani à sa tête, et que Jabhat al-Nusra devait être la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie. Sauf que Baghdadi a refusé, Donc ça a été un clash direct avec le chef d'Al-Qaïda, et ça a été le grand schisme de la mouvance djihadiste internationale avec Al-Qaïda d'un côté et Daesh de l'autre. Il se trouve que Daesh, à partir de ce moment-là, a cherché aussi à s'implanter directement en Syrie et a réussi à le faire, de manière assez spectaculaire, avec tous les événements dont vous avez gardé la mémoire, en particulier la prise de Mossoul en 2014, deuxième ville d'Irak, et la proclamation du califat. La proclamation du califat, ça a vraiment été un coup de tonnerre, là encore une surprise stratégique, parce que ça contrevenait à l'approche traditionnelle d'Al-Qaïda. Pour Al-Qaïda, la proclamation du califat ne pouvait arriver qu'au terme de la lutte. Une fois que les adversaires avaient été vaincus, que l'Oumma, la communauté des croyants, avait été réunifiée et que une assemblée de membres éminents de cette Oumma déciderait de rétablir le califat. Or, Daesh a proclamé le califat d'emblée sans réunir tous ces éléments. Al-Qaïda s'y est opposé de manière très forte d'un point de vue idéologique, théologique, mais Daesh a maintenu sa posture et a eu le vent en poupe. Cette idée de califat, nourrie par une propagande extrêmement élaborée, nombreuse, a séduit jusque dans les pays occidentaux, avec quand même 5 à 6 000 Européens qui sont partis rejoindre la zone syro-irakienne à l'époque, et les Français constituaient le premier contingent, avec à peu près 1300, 1400 Français qui sont effectivement arrivés sur place. Daesh a eu le vent en poupe, a continué ses conquêtes et a établi un proto-État à cheval sur la Syrie et l'Irak. Alors évidemment, ça a entraîné des réactions internationales. D'abord, ce qui a entraîné les premières frappes et la mise en place de la coalition internationale contre Daesh, ça a été ce qu'on considère aujourd'hui comme une forme de génocide, en tout cas de crime contre l'humanité, à l'égard des populations yézidis dans le Sinjar, où Daesh s'est vraiment lancé dans une politique de destruction de ces populations en tuant les hommes et en réduisant les femmes à l'esclavage, y compris l'esclavage sexuel, en kidnappant les enfants et en essayant d'en faire des petits soldats du califat. Donc à partir de là, alors que le Kurdistan irakien aussi était menacé en été 2014, les frappes américaines ont commencé, et puis la France a rejoint cette coalition, a commencé ses frappes sur l'Irak contre Daesh en septembre 2014. La lutte contre Daesh n'a fait que s'accentuer évidemment dans les années qui ont suivi, avec également la diffusion de la terreur de Daesh en dehors de sa zone syro-irakienne et toute la séquence d'attentats qu'on a eu dans les pays occidentaux et qui ont largement démarré en France, avec en particulier, vous en souvenez, il y a les premiers attentats de 2015 qui sont un peu à mettre à part, qui sont ceux de janvier, mais quand même, Amédi Coulibaly, qui avait frappé l'hypercacher et tué la policière à Montrouge, s'était revendiqué de Daesh, mais ensuite, vous avez eu toute une séquence à l'été 2015 d'attentats manqués, l'attentat de Villejuif, l'attentat du Talis, qui, pour le coup, était directement organisé par Daesh depuis la zone syro-irakienne. Et puis, vous avez eu surtout cet attentat majeur sur le territoire national le 13 novembre 2015, avec ces scènes multiples d'horreur dans Paris et autour du Stade de France. La lutte s'est accentuée avec des opérations militaires qui sont montées en puissance. L'opération Chamal pour la France est montée en puissance aussi. Bref, j'accélère un petit peu, mais à partir de là, Daesh n'a fait que reculer. Et quand je mentionne les oppositions armées à Daesh, il ne faut quand même pas oublier, là j'ai que parlé des Occidentaux, mais il ne faut pas oublier que, évidemment, localement, il y avait une très forte opposition à Daesh aussi. Les services de contre-terrorisme irakiens ont notamment joué un rôle très important. Les populations kurdes se sont mobilisées contre Daesh. Les Peshmerga ont aussi été à la pointe du combat. En Syrie, le régime syrien était opposé à Daesh. Vous aviez aussi des milices opposées à Daesh, notamment des milices chiites. Et en soutien au régime syrien, vous aviez l'Iran, vous aviez la Russie. qui évidemment ne faisait pas partie de la coalition internationale montée par les Occidentaux, mais qui était aussi engagé dans la lutte contre cette organisation. Cette organisation Daesh a commis une sorte de péché d'orgueil et a fini par reculer puis s'effondrer, avec en 2017 la perte de ses deux capitales, Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie. Alors à partir de là, certains ont proclamé victoire. Ça a été le cas du premier ministre irakien de l'époque, ça a été le cas de Donald Trump. Dans le livre, on a un chapitre qu'on appelle l'étrange victoire, en référence évidemment à l'étrange défaite de Marc Bloch. C'est une étrange victoire parce qu'on sent bien que ce n'est pas une victoire totale. Et on le sentait déjà en zone syro-irakienne à l'époque, c'est-à-dire que la menace était toujours là. Elle n'avait plus la forme d'une menace territorialisée, puisqu'en 2019, Daesh a perdu son dernier réduit Barouz du côté de la frontière syro-irakienne. Mais l'organisation était encore présente en souterrain, avec un mode plus de guérilla, mais elle n'avait pas disparu. Et puis son idéologie, surtout, était toujours là, et on sentait bien que si on ne poursuivait pas la lutte, ça risquait à un moment donné de remonter en puissance. Donc on a été dans cette phase un peu étrange de reconfiguration de la menace, d'absence de présence territoriale, mais toujours de capacité à conduire des attaques ponctuelles, y compris d'ailleurs dans les pays occidentaux, avec la montée de ce qu'on a appelé le terrorisme d'inspiration, c'est-à-dire des individus qui passaient à l'acte sans lien opérationnel avec l'organisation, mais inspirés par sa propagande. Et là, on a eu de multiples attentats de ce type en France, notamment. Et puis est venu donc 2021 avec l'épisode de Kaboul et le retour au pouvoir des talibans, où là, on a bien senti que pour les États-Unis, c'était vraiment le moment de mettre fin à la guerre contre le terrorisme, d'arrêter les frais, si on peut dire, avec à la fois une lassitude stratégique, parce qu'ils avaient engagé des milliards et des milliards et des centaines de milliards de dollars dans ces guerres lointaines pour des résultats qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Mais on voit aussi que dans le même temps, d'autres priorités stratégiques étaient apparues, avec des priorités stratégiques autres liées au terrorisme, en particulier les événements du 6 janvier 2020, l'attaque contre le Capitole, ont été un traumatisme. 2020 ou 2021, déjà un doute tout à coup, 2021. L'attaque contre le Capitole par les partisans de Donald Trump, ça a été un... Non, 2020, bref, peu importe, c'est soit l'un soit l'autre. Ça a été un traumatisme avec la volonté, avec l'analyse qui était faite que le terrorisme d'extrême droite était en réalité devenu une menace plus dangereuse que le terrorisme djihadiste. Et puis, en dehors du terrorisme, d'autres menaces stratégiques étaient en train d'apparaître, avec une focalisation de plus en plus forte dans le débat stratégique américain sur le futur affrontement sino-américain. Et par ailleurs, une partie aussi de l'appareil de sécurité américain pointait du doigt le danger représenté par la Russie en Europe. Donc la menace djihadiste était clairement déjà descendue dans l'échelle des priorités stratégiques, et la victoire des talibans à l'été 2021 a été en quelque sorte le dernier clou dans le cercueil de la guerre contre le terrorisme. Alors en France, on n'a pas suivi tout à fait la même trajectoire, mais on sent quand même aussi que des reconfigurations sont en cours, avec l'annonce de la fin de Barkhane, de la reconfiguration du déploiement en Afrique. On sent aussi que la menace djihadiste est toujours présente, mais moins brûlante qu'en 2015-2016. Je vous rappelle le chiffre, il y a eu à peu près 240 morts en France du fait du djihadisme de 2012 à 2017. On en a eu 24 ou 25 de 2017 à 2022. Donc objectivement, il y avait une baisse de cette menace, même si la menace en question est toujours présente, et ça se voit par les attentats déjoués. Donc, sur 2017 à 2022, on a eu 37 attentats djihadistes déjoués sur le territoire national, auquel il faut ajouter 8 attentats déjoués liés à l'ultra-droite et un attentat déjoué lié à l'ultra-gauche. Donc, la menace est toujours là, mais on est dans une phase particulière où le cycle stratégique de la guerre contre le terrorisme, d'une certaine manière, s'est terminé, c'est-à-dire qu'il ne sera plus question de déployer des moyens aussi importants, des dizaines de milliers d'hommes au sol pour faire face à des djihadistes. Il ne sera plus question de faire de la contre-insurrection. Mais en même temps, il est toujours possible de frapper à distance, de faire des éliminations ciblées, ce qui permet des gains tactiques, mais sûrement pas des victoires stratégiques. Et de l'autre côté, un nouveau cycle stratégique s'est ouvert. C'est maintenant évident depuis février 2022 avec l'opposition, avec la guerre en Ukraine, avec l'invasion russe de l'Ukraine. Nouveau cycle qu'on peut appeler compétition de puissance ou compétition stratégique, qui est en fait le retour de la guerre interétatique. Mais voilà, c'est pas parce que ce nouveau cycle s'est ouvert et que l'autre s'est terminé que la menace terroriste a disparu. Et je crois qu'une des vraies questions aujourd'hui, c'est à quoi pourrait ressembler une menace terroriste, à l'heure d'un cycle stratégique de compétition de puissance. C'est une question complètement ouverte. J'ai pas forcément de réponse arrêtée à ce jour, mais je crois que c'est un des éléments de réflexion à garder en tête. J'ai déjà parlé trois quarts d'heure, j'ai plein d'autres slides que je pourrais développer sur qui a gagné la guerre contre le terrorisme, sur la menace djihadiste, etc. J'hésite à le faire, très honnêtement, parce que je ne veux pas être trop long et que souvent la phase de débat et de questions est plus intéressante. Mais je m'en remets peut-être, je ne sais pas, Michel, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce qu'on passe à des questions? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause avec des questions? Vous voulez continuer un petit peu? Alors, on y va. Du coup, je bois, pardon, excusez-moi. Donc, si on part du principe que ce cycle stratégique s'est terminé, on peut se poser légitimement qui l'a gagné, la question qui a gagné. Pour répondre à cette question, qui est un peu caricaturale, il faut le dire, on peut raisonner en but de guerre. Les buts de guerre, ils ont en fait été assez clairement présentés à la fois par Al-Qaïda avec Oussama Ben Laden et par les États-Unis avec George W. Bush. Ben Laden, ce qu'il voulait, c'était très clair, ça ressort de plusieurs de ses textes, c'était unifier la communauté des croyants, l'Oumma, donc en fait obtenir le soutien vraiment de cette communauté des croyants. Il voulait ensuite vaincre l'Occident, les États-Unis en tête, notamment les expulsant de Dar al-Islam, de la terre d'Islam, et il voulait ensuite rétablir le califat. Bon. Sur ces trois points, ça a été un échec. Donc l'Oumma est divisée, et en particulier l'immense majorité de l'Oumma rejette les positions d'Al-Qaïda. On va y revenir, il y a quelques sondages qui existent. Le califat n'a pas été rétabli, enfin, il a été rétabli plutôt, mais par Daesh. Et on voit que ça s'est très rapidement effondré. Et puis, les Occidentaux, les États-Unis en tête, sont toujours présents dans le monde musulman. Et regardez les liens entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, récente visite de Biden, etc. Tout ça existe encore. Du côté des États-Unis, George W. Bush l'avait dit, et je vous l'ai présenté au début, que les conditions de la victoire, c'était éradiquer Al-Qaïda. C'était neutraliser les groupes, États ou individus soutenant Al-Qaïda, et c'était neutraliser ou éradiquer tous les groupes terroristes de portée globale. Mais à l'époque, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais il se trouve qu'entre-temps est né Daesh, et donc on a eu un autre groupe terroriste de portée globale. Donc, de ce point de vue-là, les trois objectifs ont aussi été manqués. Al-Qaïda existe toujours. Alors certes, Zawahiri, le leader qui a succédé à Ben Laden, a été tué il y a quelques semaines en plein cœur de Kaboul. Mais enfin, l'organisation existe toujours et surtout, elle a fait des petits. Il y a eu des filiales qui ont été créées. Al-Qaïda en Irak en 2004, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Al-Qaïda au Maghreb islamique d'abord en 2006-2007, ensuite Al-Qaïda dans la péninsule arabique en 2009, etc. Les Chebabs somaliens ont rejoint l'orbite d'Al-Qaïda. Donc, cette organisation est toujours là. Et au Sahel, actuellement, le groupe lié à Al-Qaïda, dans lequel Al-Qaïda est intégré, c'est une coalition qui s'appelle JENIM, ou le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Cette organisation est bel et bien présente et continue à se développer. Donc, cet objectif a été manqué. L'objectif de neutralisation des soutiens d'Al-Qaïda a été manqué aussi puisque les talibans sont revenus au pouvoir à Kaboul. Et puis, l'objectif de neutralisation des groupes terroristes de portée globale a été manqué aussi puisque Daesh existe toujours. Certes, a connu de nombreux revers et ne tient plus de territoire comme à l'apogée du califat en 2014-2015, mais l'organisation existe toujours. Là aussi, elle a fait des petits avec une organisation en wilaya, en province, dans différentes zones, et y compris des wilayas qui ont encore été annoncées très récemment, avec une wilaya Sahel, par exemple. Alors, le groupe l'État islamique au Grand Sahara existait déjà, mais maintenant, il a vraiment le statut de wilaya. Donc là, ça a été un échec. Alors, est-ce que ça veut dire que, entre guillemets, c'est un match nul? Enfin, je ne présenterai pas les choses comme ça, et c'est beaucoup trop trivial pour un sujet sérieux. Mais enfin, on voit qu'il n'y a pas eu de victoire décisive, ni d'un camp, ni de l'autre, et qu'effectivement, cette guerre contre le terrorisme aurait pu se poursuivre, sans doute, pendant encore longtemps. Et c'est sans doute pourquoi les États-Unis ont décidé d'y mettre un terme en se retirant de la sorte d'Afghanistan. Un progrès indéniable du djihadisme et du terrorisme, donc ça, on le voit avec un certain nombre d'indicateurs. D'abord, vous le voyez, le nombre de morts liés au terrorisme a considérablement augmenté depuis 2001. Donc, on est encore aujourd'hui à des niveaux qui sont bien plus élevés qu'en 2001. Alors ça, c'est pour voir le verre à moitié vide. Si on veut le voir à moitié plein, enfin, de manière plus optimiste, on peut voir quand même qu'il y a une décrue très nette du nombre de morts depuis 2014, la période où Daesh était à son apogée. Mais enfin, la situation est inquiétante. On ne peut pas considérer que tout cela est derrière nous. Autre indicateur, c'est le nombre de djihadistes. Le nombre de djihadistes qui, vous le voyez, est 2 à 3 fois plus élevé aujourd'hui qu'en 2001. Alors, ce graphe en particulier, qui émane d'un think tank américain, le CSIS, a été contesté parce qu'il inclut les talibans. Enfin, même si vous enlevez les talibans, vous êtes encore bien au-dessus qu'en 2001. Et toute la question, c'était de savoir si les talibans avaient rompu ou pas avec des groupes djihadistes internationaux. Et je pense que le fait que Zawahiri ait été tué en plein cœur de Kaboul nous donne au moins un petit élément de réponse. Ensuite, cette menace, elle a évolué, elle s'est décentralisée. Le principal outil ou moyen de résilience d'Al-Qaïda après le début de l'opération Enduring Freedom en 2001, où vraiment son cœur a été très fortement atteint, ça a été la décentralisation avec les filiales que j'ai évoquées auparavant. Daesh, comme je le signalais, a eu une décentralisation by design, si je puis m'exprimer ainsi. Enfin, le califat d'emblée était présenté comme mondial. Et du coup, on a eu une mouvance qui s'est très largement décentralisée. Ça, c'est la carte qui se trouve dans la version d'avril 2021 du livre. Elle a changé depuis, hein, notamment l'Afghanistan est passé très largement en rouge complètement. La menace s'est aussi étendue au Sahel, dans la BSS, la bande sahélo-saharienne. Mais on voit que cette mouvance s'est étendue géographiquement et sera aussi sans doute beaucoup plus difficile à réduire. On pourra le faire localement, mais avec une incapacité à agir sur tous les théâtres à la fois. Alors, ce qui est important aussi, et ça a été conçu d'ailleurs assez tôt par l'administration Bush, c'est l'idée qu'on peut réussir à faire mal à l'adversaire de manière cinétique, à éliminer des chefs, à éliminer des groupes, mais en réalité, on ne pourra pas éradiquer la menace tant qu'on n'aura pas éradiqué l'idéologie. Donc, il y a cette idée de « war on ideas », de guerre des idées qui a émané très tôt, avec des moyens qui ont été mis, avec des organismes qui ont été créés hors ligne et puis en ligne sur Internet pour tenter de contrer la propagande sur les réseaux sociaux notamment. Il y a eu des évolutions relativement positives. On voit par exemple que le degré de confiance en Oussama Ben Laden et en Al-Qaïda a eu tendance à baisser structurellement, même si dans certains pays ou territoires, il reste étonnamment élevé. Enfin, ça, c'est un sondage qui date de 2011, donc au moment de la mort de Ben Laden. Non ? Mais il y a eu un certain nombre... Oui, vous voyez aussi que sur Daesh, l'opinion dans un certain nombre de pays musulmans était très nettement défavorable à l'organisation, même si là encore, quand vous voyez le sondage au Pakistan, ça interroge, mais c'est un sondage cette fois qui date de 2015, donc on était à l'apogée de l'organisation. Je ne sais plus s'il a été fait avant ou après les principaux attentats. Mais enfin, globalement, on peut dire que ces groupes terroristes, que ce soit Al-Qaïda ou Daesh, n'ont absolument pas réussi à conquérir les cœurs et les esprits de la communauté des croyants musulmans. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que sur la même période, l'islamisme non violent, plus mainstream, a gagné du terrain. La question qui a été posée, c'est est-ce que vous voulez que la charia joue un rôle plus important dans le droit de votre pays ? Et on voit que dans certains pays, notamment en Afrique subsaharienne, on dépasse très largement les 60%. Pareil dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Alors évidemment, la charia, c'est un terme très vaste. Les gens pouvaient aussi avoir en tête l'utilité de la charia pour résoudre des conflits fonciers ou ce genre de choses, pas nécessairement des châtiments corporels. Mais enfin, on voit globalement que l'islamisme a eu tendance à progresser sur cette période-là, alors que le djihadisme avait tendance à perdre en popularité. Alors, quel avenir pour le djihadisme, rapidement, pour laisser la place au débat ? D'abord, cette idéologie, elle est probablement durable. On n'a pas réussi à la vaincre au cours des 20 dernières années, et je ne vois pas forcément de raison pour qu'on réussisse à la vaincre dans les prochaines années. À mon avis, elle est présente, elle est solide d'un point de vue doctrinal. Il y a des oppositions internes dans cette mouvance, elle n'est absolument pas monolithique. Vous avez eu des oppositions idéologiques et théologiques très complexes entre des partisans d'Al-Qaïda et des partisans de Daesh, par exemple. Mais elle est là et elle est encore accessible en ligne. Si aujourd'hui vous voulez accéder à des vidéos, d'Anwar al-Awlaki, par exemple, un penseur d'Al-Qaïda qui a beaucoup prêché en anglais et qui a inspiré un certain nombre d'attaques dans les pays occidentaux, al-Awlaki a beau avoir été tué en 2011, la même année que Ben Laden, ses vidéos sont encore accessibles en ligne. Alors elles le sont moins facilement qu'en 2014-2015 où vraiment on pouvait tomber dessus extrêmement facilement sur YouTube, sur Facebook ou autre, mais en étant bien orienté et bien guidé, on peut les retrouver sans trop de difficultés. Donc cette idéologie, à mon avis, elle est durable. Autre caractéristique, alors je ne sais pas pourquoi nous sommes déconnectés, et j'en suis désolé pour les 13 personnes qui sont en ligne. Je ne sais pas si les personnes qui sont en ligne nous entendent toujours, mais je l'espère. Autre caractéristique qui, à mon avis, restera présente dans l'avenir du djihadisme, c'est la capacité d'innovation de cette mouvance. Une capacité d'innovation qui s'est vue à la fois au niveau organisationnel, avec notamment cette décentralisation d'Al-Qaïda que je vous ai présentée tout à l'heure, avec la création du califat qui a été une innovation majeure aussi. Capacité d'innovation qui a été aussi stratégique, une capacité à créer des surprises stratégiques, ce n'est pas donné à tous les acteurs du champ conflictuel. Le 11 septembre a été une surprise stratégique, la prise de Mossoul a été une surprise stratégique, etc. Et puis, capacité d'innovation tactique, vous le voyez sur les images, Daesh a été un groupe non étatique capable d'avoir des drones pas chers, qu'ils ont ensuite bricolés, pour en faire des drones armés. Alors, c'est évidemment pas des Reapers et évidemment pas des drones armés d'une grande précision, mais ils avaient la capacité de mettre des petites grenades, des petites charges explosives sur leurs drones et de les lâcher avec parfois des résultats probants qui ont d'ailleurs été utilisés de manière assez spectaculaire dans la propagande de Daesh, où vous voyez un drone s'envoler, une grenade tomber sur un soldat syrien ou irakien, les camarades arrivaient et éventuellement avec des véhicules blindés et puis derrière un attentat suicide pour frapper les véhicules qui venaient au secours du soldat en question. Donc cette capacité d'innovation tactique existe. J'ai mentionné les véhicules suicides, c'est un excellent exemple d'innovation. Il y a vraiment eu une utilisation massive des véhicules suicides par Daesh avec des reconfigurations de véhicules, avec des blindages qui étaient mis en place de manière totalement artisanale pour essayer vraiment de percer les lignes ennemies. Bref, cette capacité d'innovation, a priori, il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse. En tout cas, s'ils veulent pouvoir rebondir, il faudra à un moment donné qu'ils innovent à nouveau, à la fois de manière organisationnelle, stratégique et tactique. Autre caractéristique, et celle-là, elle est plus réjouissante a priori pour nous, c'est que c'est une mouvance très divisée. La division Al-Qaïda-Daesh, je pense, va se poursuivre. Et à l'intérieur même de ces groupes, Il y a des divisions, des sous-divisions, des oppositions doctrinales, des oppositions stratégiques. Je ne détaille pas, mais on ne peut clairement pas mettre tous ces djihadistes dans le même panier. Et au contraire, on a plutôt intérêt à jouer sur leurs divisions pour essayer de les accentuer. Autre question structurante pour l'avenir du djihadisme, c'est une opposition classique entre djihad local et djihad global. Et une des grandes questions au moment de la signature de l'accord de Doha au Qatar, vous avez la photo, c'était est-ce que les talibans sont sincères lorsqu'ils affirment qu'ils sont un groupe local qui n'a pas de velléité internationale et qui s'engage à rompre avec la mouvance djihadiste internationale, en particulier avec Al-Qaïda. Encore une fois, je l'ai dit, mais le fait que Zawahiri ait été tué en plein cœur de Kaboul n'est pas une bonne indication. C'est à minima que les talibans étaient dans une logique de tolérer la présence de hauts dignitaires d'Al-Qaïda en plein cœur de leur capitale, ou voir, si on veut aller plus loin, qu'ils étaient dans une logique de coopération. En tout cas, c'est une question vraiment qui risque d'être structurante. C'est est-ce qu'on aura affaire à des groupes qui vont se cantonner à un espace donné, mais qui n'essayeront pas de projeter des attaques vers les pays occidentaux, et notamment la France, ou est-ce qu'au contraire, on va retrouver une dynamique de djihad global plus importante? Et voilà, pour nous, c'est évidemment une question centrale, au regard notamment de la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. Enfin, dernier point, c'est la dialectique provocation sur réaction. Les djihadistes, et je pense que c'est une leçon importante pour la suite, et je terminerai peut-être là-dessus, les djihadistes sont une menace, mais il faut se garder de deux écueils. D'abord, la sous-évaluation de cette menace. Il y a eu tout un tas de périodes pendant ces 20 ans où la menace a été sous-évaluée. On a dit non, mais ce ne sont que des paysans avec des kalachnikovs, il n'y a pas de risque, etc. Le risque est minimum, il n'y a pas de raison d'intervenir. Et de l'autre côté, la surréaction, où tout à coup, l'ennemi est devenu la menace numéro un, ultra présente, et où on a voulu taper extrêmement fort, parfois avec un manque de discrimination dans la réponse, ou de précision dans la réponse. Et c'est ce double écueil qu'il faudra à tout prix éviter, parce qu'il entretient la spirale du terrorisme, donc sous-évaluation d'un côté et surréaction de l'autre. Ça suppose évidemment d'avoir des capacités de renseignement et d'analyse très fines, et qui se maintiennent dans les prochaines années sur ces sujets-là, pour pouvoir évaluer au mieux l'évolution de cette menace et la manière d'y répondre. On a donc affaire à un marathon plutôt qu'à un sprint. Il faut pouvoir durer face aux djihadistes. Hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais enfin, vous connaissez tous cette formule de combattants insurgés qui disent « vous avez la montre, nous avons le temps ». Le fait est que ça a beau être une expression maintenant très convenue, il est vrai que le facteur temps jusqu'à présent a plutôt joué en faveur des mouvements insurgés djihadistes, et qu'il faut qu'on apprenne aussi de notre côté à durer, même s'il y a d'autres priorités stratégiques, même s'il y a des coûts supplémentaires sur d'autres thématiques qu'il faut assumer également. Je pense qu'il serait extrêmement dangereux en tout cas de vouloir refermer brutalement d'un coup cette parenthèse de guerre contre le terrorisme et de détourner le regard vers autre chose ailleurs, vers l'Est en ce moment. En fait, les menaces évidemment peuvent se cumuler, et ce n'est pas parce qu'on a le retour de la guerre conventionnelle en Europe, avec une menace réelle, que l'autre menace de ces 20 dernières années a disparu. En réalité, elle est encore là. Ensuite, limiter ses ambitions politiques, mais sans cynisme. Là, ça veut dire qu'on a vu pendant cette période de 20 ans qu'il y avait une forme d'hubris, notamment du côté américain, mais pas que, qui consistait à vouloir démocratiser des zones extrêmement lointaines culturellement et très loin des standards démocratiques. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire qu'il faut être cynique et se contenter d'un acteur autoritaire qui réussirait à tenir sa zone. Mais le fait est qu'une des leçons de ces 20 ans, c'est que toutes les ambitions politiques ne sont pas forcément pertinentes, et que dans certaines zones, on n'arrivera pas à établir une démocratie à l'occidental. Enfin, négocier ce qui peut l'être, mais sans naïveté. Bon, ça, c'est un tantinet daté aujourd'hui, mais c'est lié au fait que quand la première version du livre est sortie, il y avait tout ce débat sur faut-il négocier avec les terroristes, avec les gouvernements qui ont tendance à dire non, surtout pas, il faut les vaincre, etc. Nous, on avait une approche un peu plus pragmatique et terre-à-terre en disant ben, il ne faut pas écarter cette piste, il ne faut pas se priver de cartes dans son jeu. Il est sans doute possible de pouvoir négocier certaines choses, notamment au niveau local, mais évidemment, sans naïveté, il peut y avoir des manipulations aussi, et puis sans se fourvoyer totalement. Et puis, il y a des groupes, bien sûr, Daesh, qui n'accepteront jamais de négocier, et nous ne voulons pas non plus négocier avec eux. Bref, je m'arrête là. Il s'agit évidemment de replacer la lutte contre le terrorisme à la place qui lui revient, c'est-à-dire une place importante, mais qui n'est pas non plus... voilà, faut le remettre vraiment à sa place. C'est-à-dire que ce n'est sans doute pas une menace existentielle pour nos sociétés. Ça ne doit sans doute pas être non plus l'alpha et l'oméga de notre politique de défense, de notre politique étrangère. Mais en ce moment, il est, je pense, important vraiment de garder cette menace à l'œil et de ne pas replier complètement le parapluie. Je m'arrête là, voilà, ça a duré une heure, je ne sais même pas si c'est ce qui était prévu exactement ou pas, mais enfin on a un peu de temps pour les questions, y compris les questions qui viendraient en ligne par la discussion, là, l'icône discussion. Donc si vous êtes en ligne, je peux effectivement lire, et d'ailleurs tout le monde voit vos questions.
Non, il y avait une question là, oui.
Non, c'était juste pour dire que le son marche bien.
Ça marche, là, vous m'entendez?
Oui, bonjour, Madame Oudoulou. J'ai une question pour peut-être ajouter un élément que je n'ai pas entendu, qui a sûrement une importance. En fait, il y en a deux pendant toute cette période qui ont un lien. L'apparition gaz de schiste, pétrole de schiste, qui a changé la stratégie américaine, et les impacts dans les deux sens, on va dire, des pays arabes traditionnels, qui, quelque part, ont l'arrivée d'MBS, et puis la Turquie, qui est quand même, quelque part, quelqu'un qui a pesé, peut-être plus que pour le futur.
Bon, sur le premier, moi, j'ai toujours été très réticent avec les interprétations sur les guerres du pétrole, etc. Je pense qu'il y avait vraiment une menace et que les États-Unis ont voulu faire face à cette menace. Il est vrai que Donald Trump... a donné de l'eau au moulin à ceux qui défendaient l'idée de guerre du pétrole, puisqu'il a fait des déclarations à l'emporte-pièce allant vraiment dans ce sens. Bon, il est vrai aussi, vous l'avez dit, que sur cette période-là, les États-Unis sont devenus indépendants d'un point de vue énergétique. Mais bon, moi, je ne souscris pas à cette interprétation un peu économique prédatrice de ressources, parce que quand vous voyez notamment le coût de ces interventions absolument abyssales, vous ne pouvez pas, entre guillemets, rentrer dans vos frais, quoi. C'est même quand les prix du pétrole s'envolent. Joseph Stiglitz, le prix Nobel de la paix, a écrit un bouquin, ça doit faire une quinzaine d'années maintenant, qui s'appelait The Three Trillion War. Trillion, c'est toujours délicat à traduire, et je ne suis pas mathématicien ni économiste, je ne vais pas m'avancer dans la traduction, mais enfin, on parle de milliers de milliards de dollars, si je ne m'abuse, c'est absolument considérable. Donc voilà, moi je ne souscris pas à cette interprétation qui est souvent, enfin, qu'il faut pouvoir regarder de manière objective avec tous les éléments, mais qui trop souvent est utilisée par des complotistes. Et le complotisme, ça a été vraiment une des plaies de ces dernières années, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Et je crois qu'il faut faire très attention à ne pas donner trop de grains à moudre à des groupes ou des individus complotistes qui pourraient récupérer des propos de ce type-là. Mais en tout cas, d'accord pour étudier le sujet précisément. Sur l'autre aspect... Alors la Turquie a été accusée pendant un temps d'avoir un jeu trouble, un double jeu éventuellement. Aujourd'hui, il me semble que c'est en tout cas beaucoup plus clair, et je dis aujourd'hui, mais enfin ça fait quelques années, c'est-à-dire que la Turquie défend ses intérêts dans la zone, défend un modèle islamiste conservateur, ce qui l'a amené à soutenir un certain nombre de groupes armée islamiste, et aujourd'hui dans la zone on va dire, d'intérêt, presque de protection turque dans le nord de la Syrie. Vous avez un groupe qui est Hayat Tahrir al-Sham, qui est l'héritier de Jabhat al-Nusra, qui est l'héritier d'Al-Qaïda, mais qui a rompu avec Al-Qaïda, et c'est aujourd'hui bien, bien attesté. Bon, la Turquie a ensuite été touchée à de multiples reprises par le terrorisme de Daesh, y compris en plein cœur d'Istanbul. Donc, je crois que là-dessus, aujourd'hui, les choses sont à peu près claires. Enfin, si, je ne sais pas si c'était le sens de votre question ou pas, mais on ne peut pas dire que la Turquie soutient Al-Qaïda ou Daesh. En revanche, elle soutient un modèle islamo-conservateur. Elle soutient des groupes, y compris djihadistes, mais qui sont plus sur une logique de djihad local. Alors, Hayat Tahrir al-Sham, dont je parlais tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin sans s'aventurer dans des hypothèses qui seraient difficiles à démontrer ou à étayer. Pour ce qui est des pays arabes, alors évidemment, tout dépend desquels on parle. J'imagine que vous aviez en tête les pays du Golfe, certains nombres de pays du Golfe, parce que là aussi, ils sont sur des positions très différentes, en particulier depuis la crise de 2017 qui opposait Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis au Qatar. Historiquement, l'Arabie Saoudite a eu un rôle très clair et qui est documenté de soutien aux Moudjahidines afghans pendant la guerre qui opposait donc l'Union soviétique à l'Afghanistan, enfin aux Moudjahidines afghans, donc de 1979 à 1989. À cette époque-là, donc Ben Laden était parti sur place avec Abdallah Azam, que j'ai évoqué précédemment. Bon, Azam n'est pas saoudien, hein. Azam est d'origine palestinienne, mais Ben Laden, lui, est saoudien et avait vraiment ses entrées par son père, qui était un riche entrepreneur dans le BTP, avait ses entrées auprès des plus hauts dirigeants saoudiens. Azam et Ben Laden ont essayé de développer ce réseau de soutien arabe au djihad afghan. Il fallait des fonds, ils les ont obtenus. Ça n'a pas eu le succès escompté à l'époque pour eux, c'est-à-dire qu'au début, il y a eu quelques centaines d'individus qui sont arrivés. On estime au total sur la période jusqu'à la fin 89 qu'il y aurait probablement eu 4 à 5 000 qui sont venus. Ils ont probablement eu un rôle qui a été surestimé dans la victoire des Moudjahidines face à l'Union soviétique. Mais tout ça, c'était à une période où on ne parlait pas vraiment d'Al-Qaïda. Enfin, c'était la lutte locale contre l'Union soviétique. On estime qu'Al-Qaïda a été créé probablement en 87 ou 88, hein, sur la base de ce qui était un peu l'ancêtre, ce bureau des services. Ensuite, très rapidement, Ben Laden et le régime saoudien ont eu des relations plus que tendues. Et c'est pour ça que Ben Laden a quitté le pays. Je rappelle un peu que la grande scission, ça a été la guerre du Golfe de 1990. En 1990, quand Saddam Hussein envahit le Koweït et menace d'aller plus loin en Arabie Saoudite, les Moudjahidines d'Afghanistan, les combattants arabes qui avaient soutenu les Moudjahidines, se retrouvent en quelque sorte au chômage technique après le départ des Soviétiques. Et Ben Laden obtient un rendez-vous avec le ministre de la Défense saoudien et fait une offre de service. Il propose que les anciens d'Afghanistan aident l'Arabie Saoudite à protéger le pays en cas d'attaque irakienne. Et à l'époque, le régime saoudien a refusé cette offre de service et a misé sur les États-Unis, ce qui a donné Desert Storm, l'opération américaine qui a permis de repousser l'Irak du Koweït. Ben Laden a vécu ça non seulement comme un affront personnel, mais aussi comme un affront idéologique. C'est-à-dire que pour lui, le régime saoudien, à ce moment-là, a fait le choix de faire entrer les infidèles en masse, il y a eu des centaines de milliers de soldats américains, sur la terre des lieux saints, la Mecque et Médine. Ça a été vraiment une rupture très forte, et Ben Laden a fini par quitter l'Arabie Saoudite pour le Soudan, et ensuite, en 1996, il est allé en Afghanistan, et il y a un épisode dans sa période soudanaise qui a, à ma connaissance, pas été totalement élucidé, qui est une tentative d'assassinat de Ben Laden, qui est vraiment documentée, enfin, qui a eu lieu. Il y a eu une fusillade dans la rue, enfin, qui a pu être observée. Et les soupçons principaux se sont ont pesé à l'époque sur les services saoudiens. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, mais enfin, ceci pour dire qu'on ne peut absolument pas mettre un signe égal entre Arabie Saoudite et Al-Qaïda. Ce qui s'est passé vraisemblablement, mais là je parle avec beaucoup de pincettes parce qu'en réalité on a peu d'éléments probants et de documentation, c'est que des individus privés ou des fondations ou autres ont continué à soutenir Al-Qaïda, même après le 11 septembre 2001, mais voilà, le gouvernement saoudien ne les contrôlait peut-être pas. Mais c'est encore une période qui n'est pas éclairée. Quand je disais que l'histoire progresse constamment, ben, on attend là, des déclassifications de documents. Vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque d'Obama, il y avait eu des promesses de déclassification sur ces sujets. Et en réalité, elles n'ont pas abouti. Voilà ce que je peux dire. Et pour d'autres pays du Golfe, c'est les mêmes soupçons qui pèsent, c'est-à-dire les soupçons de financement par des individus, par des fondations, mais pas forcément par les États en tant que tels.
Oui, je voudrais, pour alterner, il y avait une question, alors faudrait remonter la tirette qui était sur vers le haut, qui était la défaite, voilà, expliquer la victoire aussi rapide des talibans en Afghanistan, sans aucune résistance ni combat de la part de l'armée afghane avec le soutien militaire de l'armée américaine sur place. Je vous passe.
Oui.
Un mot.
Ok, d'accord.
Alors, bon, c'est un événement tout récent. Il faudra encore évidemment là aussi avoir plus de documentation d'éléments. Mais enfin, ce qui me semble être pour le moment des éléments à avancer sont les suivants. D'abord, une insurrection, je pense, ne gagne jamais sans une forme de soutien populaire. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir les talibans uniquement comme un mouvement terroriste qui terroriserait la population. Il y a sûrement cette dimension-là. Dans une partie du mouvement, et notamment le réseau Haqqani a perpétré des attentats terribles, y compris en plein cœur de Kaboul. Mais je pense qu'il ne peut pas se passer ce qui s'est passé à l'été 2021 en Afghanistan, avec cette rapidité, ce qui est décrit dans la question, sans qu'il y ait une forme de soutien populaire, au moins d'une partie de la population. Ça peut être des zones plus reculées, rurales, qui n'avaient pas été touchées par l'occidentalisation qui avait été portée par les États-Unis depuis 2001. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Un autre élément de réponse, c'est le caractère absolument catastrophique de la gouvernance qui s'est mise en place en Afghanistan après la chute des talibans. Le gage de la réussite, ça aurait été que le pays se développe et que les griefs de la population puissent être pris en compte sérieusement par les nouveaux gouvernants, par le nouveau pouvoir. Le fait est qu'on a eu une captation prédatrice de l'aide internationale avec des montants considérables qui ont été versés. L'ancien ambassadeur de France en Afghanistan, qui est toujours ambassadeur, mais pour l'Afghanistan, parce qu'il est maintenant basé ici, David Martinon a écrit un ouvrage très intéressant sur les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, mais qui en réalité revient plus en arrière sur les raisons de cette débandade en 2021. Et il donne cette estimation, il dit qu'entre 4 et 8 plans Marshall ont été déversés sur l'Afghanistan depuis 2001. Donc c'est absolument considérable, et en fait ça a été capté, ça a été très largement détourné, ça a nourri la corruption, ça a nourri les pratiques prédatrices de certains chefs de guerre. Et dans le même temps, face à cette gouvernance vraiment extrêmement mauvaise et à une promotion de la démocratie, mais qui n'était qu'une démocratie de façade avec des élections manifestement truquées. Là aussi, il faut lire les passages de David Martinon sur la réélection d'Ashraf Ghani. C'est absolument incroyable. Le corps diplomatique était visiblement au courant qu'il y avait eu des fraudes massives. Donc, il y avait deux candidats qui appelaient à la victoire, qui affirmaient avoir gagné. Il y avait Ashraf Ghani et Abdullah. Et les ambassadeurs de l'Union européenne avaient prévu de se réunir pour voir ce qu'ils allaient faire, sachant qu'il y avait eu ces fraudes. Et David Martinon raconte qu'à ce moment-là, alors même que cette réunion n'avait pas encore eu lieu, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, a appelé Ashraf Ghani pour le féliciter de sa victoire. Donc, à partir de là, les ambassadeurs ne pouvaient plus rien faire. Vous voyez, il y a eu des dysfonctionnements aussi très importants à ce niveau-là. Et puis, bon, face à tous ces dysfonctionnements, la mauvaise gouvernance, la corruption, les talibans, eux, ont essayé de se présenter comme des gens honnêtes, appliquant une norme claire. On peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, ils présentaient la charia comme la norme à appliquer. Se présentant comme beaucoup plus juste que le gouvernement en place. Il y a un ouvrage aussi très intéressant tiré d'une thèse de doctorat qui est sorti d'Adam Bashko sur la justice des talibans. Les talibans avaient mis en place des cours de justice islamique qui, en fait, fonctionnaient beaucoup mieux que les tribunaux de la République islamique d'Afghanistan. En l'occurrence, c'était notamment pour traiter de différents du quotidien, des différents fonciers, des différents familiaux, etc. Il ne s'agissait pas nécessairement, encore une fois, de châtiment corporel ou autre. Et bon, c'est pour ça que je dis que une insurrection ne peut pas, à mon avis, réussir avec cette ampleur, cette rapidité, sans avoir une forme de soutien populaire, même si, évidemment, c'est une forme de soutien qui ne vient que d'une partie de la population. On a bien vu aussi que beaucoup ont voté avec leurs pieds et ont voulu fuir tous ceux qui avaient été attirés par le modèle occidental vanté par les États-Unis et leurs alliés depuis 2001. Tous ceux qui avaient d'une manière ou d'une autre coopéré avec les États-Unis ou leurs alliés ou avec les institutions en place ont cherché à fuir parce qu'ils pensaient que leur vie était menacée et sans doute en partie à juste titre. Voilà pour cette réponse un peu longue.
C'est branché.
Oui, c'est branché. Oui,
je voulais savoir si vous étiez intéressé aux attentats déjoués en France, dans d'autres pays, si vous considériez que c'est un indicateur représentatif.
Oui, c'est un indicateur représentatif, mais de quoi ? Là, tout est la question. Non, c'est un indicateur. Alors, effectivement, je m'y suis intéressé surtout en France. Ce qu'on voit surtout, c'est que la menace a évolué depuis plusieurs années. Pour le dire de manière très schématique et sans doute un peu trop simpliste, le 13 novembre, c'est un peu le grand œuvre de Daesh dans les pays occidentaux. C'est la capacité à attirer des combattants en zone syro-irakienne, combattants européens, à les former, à les entraîner, à les aguerrir et ensuite à les projeter dans leur pays d'origine, ou, c'est en partie le cas, les Français et les Belges, pour commettre un attentat très sophistiqué qui n'aurait pas pu avoir lieu s'ils n'avaient pas été aguerris de la sorte à l'étranger. Le 13 novembre, avec son prolongement, les attentats de Bruxelles en mars 2016, n'a pas été répliqué. Daesh n'a pas réussi à refaire une attaque aussi sophistiquée. Et une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas réussi, c'est tout cet appareil du contre-terrorisme qui s'est mis en branle et que j'ai décrit, avec l'opération Chamal, notamment en zone syro-irakienne, qui a obligé Daesh à être sur une posture défensive et à défendre des territoires de plus en plus réduits, et puis aussi tout le contre-terrorisme qui s'est mis en place sur le territoire national avec le développement des services de renseignement, avec les lois antiterroristes aussi qui se sont accumulées et qui ont fini par produire un effet. Ensuite, il y a une autre forme de terrorisme qui est apparue, qui est le terrorisme qu'on a appelé téléguidé. Donc là, il n'y avait plus cette forme d'organisation et d'entraînement à l'étranger, mais ça a été la présence d'opérateurs de Daesh en zone syro-irakienne. Il y en a surtout un qui est connu, qui est Rachid Kassim, qui est un Français qui originaire de Roanne, qui est parti en zone syro-irakienne, qui a été formé par Daesh et qui ensuite, sur place, a cherché à recruter des jeunes Français, notamment par l'application chiffrée Telegram, et à leur désigner des cibles et à leur indiquer des modes opératoires. Ça a donné des attentats, ça a donné l'attentat de Magnanville, notamment avec un couple de policiers qui a été tué. Ça a donné l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray avec le prêtre Hamel qui a été égorgé. Et puis ensuite, il y a eu une troisième phase. Et en fait, les attentats déjoués de ces dernières années sont beaucoup liés à ce troisième mode opératoire. C'est ce qu'on a appelé le terrorisme d'inspiration. Là, on a affaire à des individus qui ne sont pas en lien avec l'organisation. qui n'ont pas été formés sur place, mais qui ne sont même pas en lien avec des opérateurs à l'étranger qui désigneraient des cibles ou des modes opératoires. Ce sont juste des personnes qui sont inspirées par la propagande de l'organisation. Et la propagande qu'on trouve en ligne, hein, comme je l'ai décrit tout à l'heure, et en fait, quand je dis propagande, ça va plus loin que la propagande. C'est-à-dire que pour Daesh, c'était déjà un peu le cas pour Al-Qaïda avant, Internet est devenu une vraie plateforme opérationnelle. C'est-à-dire qu'ils s'en sont servis non seulement pour diffuser cette propagande, mais aussi pour diffuser des grandes orientations stratégiques. Ce que j'appelle grande orientation stratégique, c'est par exemple de dire « rejoignez-nous en zone syro-irakienne » ou au contraire « passez à l'acte directement dans votre pays sans chercher à nous rejoindre ». Mais ils ont aussi diffusé des conseils tactiques opérationnels très précis, hein, des manuels pour fabriquer des explosifs, des vidéos pour expliquer comment on monte ou on démonte une arme, des web magazines expliquant comment customiser un véhicule pour faire le maximum de morts en fonçant sur la foule. Donc vous aviez ce genre de choses. Et voilà, parmi les attentats déjoués qu'on a eu au cours des dernières années, il y en a eu beaucoup qui manifestement rentraient dans cette catégorie-là. Donc c'est aussi ce qu'on a pu appeler du terrorisme low cost. C'est du terrorisme qui en général fait peu de morts, parce qu'on a affaire à des gens qui ne sont entre guillemets pas des professionnels, qui n'ont pas été formés au maniement d'explosifs, de bombes ou autres, qui du coup passent à l'acte avec un couteau ou autre chose. Mais pour moi, ça rentre quand même dans une grande vision stratégique qui a pu être qualifiée de stratégie des mille entailles. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pour mettre à genoux une société, il n'y a pas forcément besoin de méga attentats type 11 septembre, mais si vous multipliez les petits, entre guillemets, les petites attaques, les entailles, si vous multipliez ces entailles, vous allez finir par saigner le corps social à petit feu et par créer des tensions très fortes dans la société qui peuvent à un moment donné conduire à sa désagrégation. Oui. Un focus sur la zone sahélienne. Donc je la lis à voix haute, tout le monde arrive peut-être
un
à la
lire. Un focus sur la zone sahélienne et plus largement sur l'Afrique. Voilà. Il semble que le djihadisme dans ces régions soit matiné d'autres motivations tribales, ethniques et économiques, c'est exact. Comment réagissent les mouvements d'origine à ces dérives éventuelles? Comment affronter ces mouvements africains?
Il y a d'autres questions en plus qui arrivent. Alors, bon, le djihadisme, il naît rarement de nulle part. Hein. Et les djihadistes ont été très forts au cours des deux dernières décennies pour se greffer sur des conflits locaux préexistants. Donc, moi, je me méfie toujours des lectures unifactorielle d'un phénomène en voyant que l'idéologie ou que les facteurs sociaux, que les facteurs. Bon, en général, évidemment, on a affaire à des phénomènes très complexes qui allient les éléments qui ont été mentionnés dans la question à une instrumentalisation idéologique par des groupes qui vont travailler la population en prêchant, en diffusant. Et c'est pour ça aussi que les États qui sont en situation de contre-terrorisme ou de contre-insurrection doivent être extrêmement attentifs à leurs réactions et se garder à la fois de minimiser, j'en reviens à ce que je présentais avant, en disant ce ne sont que des bandits, ce ne sont que des criminels, ou au contraire de surréagir en s'en prenant à toute la population, parce que vous risquez d'arriver à des situations incontrôlables. Et bon, actuellement, moi je ne suis pas spécialiste de l'Afrique, mais j'ai plusieurs collègues à l'IFRI qui le sont, et là c'est dommage aussi qu'Ali Tenenbaum ne soit pas là, parce que lui il a fait plus de terrain que moi en Afrique, même si on a été ensemble au Mali là, en 2020 pour ce livre. Mais bon, typiquement, on voit qu'il faut... Actuellement, il y a une crainte en Afrique sur le fait que les dynamiques ethniques puissent vraiment... Je ne sais pas comment le formuler, j'allais dire prendre le... Je vais le reformuler autrement, mais que les... En fait, ce qui est souvent présenté comme un djihad des peuls devienne une forme de prophétie autoréalisatrice. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ça, parce que, évidemment, si d'un côté, vous avez la mouvance djihadiste qui appelle au djihad des peuls, et de l'autre côté, des autorités ou des populations qui se méfient considérablement d'un groupe ethnique particulier, jusqu'à ensuite, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais je l'avance comme ça de manière un peu théorique, mais jusqu'à faire des coups de filet dans cette communauté, arrêter des individus qui n'ont pas forcément de lien avec un groupe djihadiste donné, mais qui appartiennent à la communauté en question, vous risquez justement d'alimenter des dynamiques conflictuelles. Et je sais qu'aujourd'hui, ça fait partie des inquiétudes des spécialistes de l'Afrique, notamment à l'IFRI, c'est de dire attention, il ne faut surtout pas qu'on rentre non plus dans un affrontement djihadiste contre force, contre terroriste, mais dans ce qui serait des dynamiques interethniques difficilement solubles. Donc, comment. Alors, ouais, autre point peut-être d'essayer de répondre à la question comment affronter ces mouvements africains, rappeler que malheureusement, la bande sahélo-saharienne, ce n'est qu'un des trois grands fronts du djihadisme en Afrique aujourd'hui. Donc, le djihadisme, le centre de gravité du djihadisme aujourd'hui semble vraiment se décaler vers le sud, vers l'Afrique, mais il y a trois grands fronts. Il y a effectivement la bande sahélo-saharienne qui nous parle plus à nous, Français, parce que les armées y ont été déployées avec Serval et Barkhane, mais il y a aussi toute la mouvance qui était liée à Boko Haram et qui s'est divisée entre supporters d'Al-Qaïda et supporters de Daesh autour du lac Tchad. Et aujourd'hui, ça a très largement dépassé les terres d'origine de l'État du Borno au Nigeria. On a eu des attaques au Tchad, au Cameroun, etc., avec des connexions qui se sont déjà faites entre les groupes de la bande sahélo-saharienne et les groupes du bassin du lac Tchad. Et puis, on a un troisième grand front djihadiste sur la corne de l'Afrique, donc la côte orientale, avec les Chebabs liés à Al-Qaïda, Al-Chebab, qui sont aujourd'hui un groupe qui voilà, a des capacités probablement de contrôle territorial, qui déploie une forme de gouvernance, et on se demande jusqu'où ils peuvent aller. Est-ce qu'on peut avoir des phénomènes similaires à celui des talibans en Afghanistan? En tout cas, il y a vraiment ces trois fronts. Et puis, ce qu'on a vu aussi au cours des dernières années, c'est qu'il y a des nouveaux foyers qui sont apparus en République démocratique du Congo et au Mozambique également, foyers qui ont été inclus dans le giron de Daesh. Et Daesh communique régulièrement dans sa propagande sur ces nouveaux foyers africains. Maintenant, comment affronter ces mouvements? C'est extrêmement difficile et on le voit bien avec les difficultés rencontrées par la France au niveau de Barkhane. Ce qu'on voit globalement, c'est qu'on arrive par la force armée à porter des coups sporadiques, notamment à conduire des frappes de décapitation efficaces d'un point de vue tactique, mais ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire que ces groupes ensuite reviennent, ils remplacent les chefs, ils remplacent les cadres intermédiaires, et en réalité, ces frappes de décapitation, dans un monde idéal, devrait pouvoir être exploité politiquement et socialement et économiquement pour créer un terreau plus favorable pour les populations au niveau local et résoudre les problèmes fondamentaux de gouvernance qui font le terreau du djihadisme. Et ça, on n'y arrive pas. Alors, il est vrai que c'est, en théorie, ça devrait être la responsabilité première des États de la zone. Mais on sait bien qu'on a affaire à des États extrêmement faibles et que depuis le double coup d'État au Mali, la France est clairement, j'allais dire persona non grata, mais la France n'est pas une personne. Enfin, bref, vous m'avez compris, dans le pays. Et très franchement, je ne sais pas du tout ce qui va advenir dans cette zone-là, mais sans être un spécialiste de la zone, moi, je suis très inquiet et je ne peux que constater que la menace s'est étendue ces dernières années et qu'elle pousse aussi vers les pays du Golfe de Guinée. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées, mais il y en a peut-être dans la salle.
Une autre question, alors, on terminera peut-être par celle-là.
Oui. Hein.
Merci, bonsoir, Hervé Fouas. Vous avez évoqué tout à l'heure la position des États qui étaient dans une attitude, vous n'avez pas voulu utiliser le mot cynique, mais peut-être plus réaliste face à la capacité à mettre en œuvre la démocratie dans certaines zones. Bon, c'est un sujet qui est souvent abordé. Un constat qui peut quand même être fait, c'est que est-ce que cette attitude est uniformément partagée ou est-ce que des courants d'influence importants dans les pays occidentaux, je pense aux médias par exemple, qui ont une forte influence sur les populations, ne jouent pas un rôle différent sur ce sujet-là. Je voudrais illustrer mon propos par le printemps arabe en particulier, dont personnellement je me souviens qu'il avait déclenché un enthousiasme général dans certains courants d'influence dans les pays occidentaux. Et ça ne s'est pas traduit simplement un enthousiasme qui enflamme tout le monde, puis on passe à autre chose après. Ça s'est traduit par des actions concrètes, si on pense à la Libye en particulier. Toutes les conséquences du fait qu'un potentat local puissant qui stabilisait à peu près sa zone, en l'occurrence Kadhafi, est tombé. Et on constate aujourd'hui que bien des années après, alors que l'enthousiasme des printemps arabes, plus personne n'en parle, on en subit largement les conséquences. Et c'est probablement un foyer, je dirais, d'infiltration du terrorisme dans nos pays. Donc, j'étais intéressé par avoir votre sentiment sur ce phénomène.
Alors oui, il y a eu une forme d'enthousiasme, c'est vrai, à l'époque. L'IFRI avait publié un numéro d'ailleurs de la revue Politique étrangère là-dessus. On était une des voix dissonantes. On avait publié un spécialiste d'Al-Qaïda allemand qui s'appelle Guido Steinberg et qui disait attention, peut-être que le démantèlement des régimes sécuritaires pourrait laisser la place à une déstabilisation, etc. C'est toujours pas très politiquement correct de dire ça parce que ça peut être interprété comme un soutien à des régimes autoritaires ou à des dictatures. Maintenant sur la Libye, je pense quand même qu'il faut toujours rappeler qu'avant l'intervention franco-britannique et américaine et puis d'autres alliés, le pays était déjà considérablement déstabilisé, que Kadhafi massait ses troupes devant Benghazi en expliquant qu'il allait faire couler des rivières de sang, etc. Et c'est pas l'intervention qui a déstabilisé le pays. On ne sait pas ce qui serait arrivé. Mais ce qui me frappe toujours sur la perception des printemps arabes 10 ans après, c'est que la France est souvent critiquée à la fois pour être intervenue en Libye et pour ne pas être intervenue en Syrie. Dans les deux cas, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné, mais à la fois l'intervention n'est pas une science dure ni sûre. La non-intervention peut avoir un coût tout aussi élevé que l'intervention. Donc, on est sur des sujets extrêmement compliqués. Alors, sur le rôle des médias en tant que tel, bon, l'enthousiasme, il est vrai. Après, je nuancerai peut-être l'influence des médias, parce que est-ce que le politique a besoin d'attendre un article dans la presse ou même une série d'articles pour prendre ses décisions? J'en suis pas sûr, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une atmosphère enthousiaste qui avait sans doute aussi gagné des cercles dirigeants. Mais sur la Libye, c'est pas tant l'enthousiasme qui l'a emporté. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je relis a posteriori la période, l'épisode. C'est à la fois l'idée que la France avait loupé le tournant des printemps arabes. Souvenez-vous du mutisme au moment du démarrage de la révolution en Égypte et ensuite des positions prises par la ministre de l'Intérieur au moment de ministre de l'Intérieur ou des Affaires étrangères, fallait occuper les deux postes, je ne sais plus lequel elle avait à l'époque, mais qui avait proposé un soutien au maintien de l'ordre pour essayer d'éviter les morts en Tunisie. Bon, ensuite, quand la révolution gagne d'autres pays et la Libye, et qu'en particulier en Libye, vous avez ces déclarations sur, en gros, les insurgés vont être tous éliminés, ce sont des cafards, on va faire couler des rivières de sang. Pour moi, ce qui a surtout motivé l'intervention, c'est le concept de responsabilité de protéger et la nécessité d'éviter un massacre de masse, quoi. Alors, est-ce que c'est le rôle de la France de faire ça ou pas? On pourrait en débattre pendant longtemps. Mais en tout cas, je pense que oui, il faut quand même encore avoir une lecture un peu prudente des événements, attendre aussi toutes les ouvertures d'archives, etc., pour pouvoir se faire une idée précise de ce qui s'est passé. Juste un mot là-dessus quand même, je ne l'ai pas mentionné du tout, mais deux activités là que j'aimerais mentionner. À la fois, j'ai enseigné à Sciences Po pendant plusieurs années, et puis il m'est arrivé aussi d'aller parler à des djihadistes en prison. Et dans les deux cas, on a repris l'exemple des printemps arabes et du cas libyen sous forme de jeu de rôle. Donc, et si j'ai fait ça, à la fois comme enseignant et puis comme personne intervenant face à des personnes en prison, c'était pour montrer la difficulté de la prise de décision dans des cas comme celui-là. Alors, la première chose frappante dans ce genre de choses, c'est que les étudiants de Sciences Po, entre guillemets, plongent dans le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'ils se voient déjà dans des cabinets ministériels et ils sont prêts, ils raisonnent, etc. Ils pensent aux normes internationales, aux équilibres de force, etc. Alors que les personnes qui sont en prison, qui souvent n'ont pas un gros background intellectuel, n'ont pas fait d'études, etc., sont très réticentes à faire ce genre de choses et il faut vraiment les pousser. Mais dans les deux cas, le résultat est intéressant et notamment, en fait, dans la mouvance djihadiste, s'est développé tout un discours sur le fait que la France avait déstabilisé la Libye, était allée pour les guerres du pétrole, etc. Bon. Et donc, on leur dit, bon, voilà ce qui se passe. Kadhafi amasse ses troupes autour de Benghazi. Vous faites quoi? Alors, la première réponse, ça va être, on n'y va pas parce que vous avez déstabilisé en intervenant, il ne faut pas y aller. Alors, on leur dit, mais attendez, alors, Kadhafi, il massacre tout le monde. Mais vous savez que les gens qui sont dans Benghazi, pour une partie d'entre eux, ce sont des islamistes. Donc, vous allez laisser vos frères se faire massacrer, etc. Alors, ils disent, ben non, on ne va pas les laisser se faire massacrer. Alors, on y va. Vous y allez, mais vous faites quoi? Et là, ensuite, il faut expliquer tout un tas de choses, que ce n'est pas parce qu'on est la France avec une armée qui fait partie des principales armées du monde occidental, etc., qu'on maîtrise une intervention de A à Z, que la science militaire est une science sûre. Il y a des dynamiques propres au conflit qu'on ne maîtrise pas forcément. Et ça, c'est une idée aussi qui est difficile à faire passer. Difficile à faire passer aussi, encore plus pour l'armée américaine, qui est vue dans la sphère djihadiste comme absolument toute puissante. Et forcément, si quelque chose va mal, c'est qu'il y a un complot derrière, quelque chose qui n'est pas compris. Bref, j'ai un peu divagué par rapport à votre question, mais il me semblait quand même intéressant d'amener ces éléments pour montrer qu'on est vraiment sur des choses compliquées. Et on n'a pas forcément non plus aujourd'hui déjà des réponses à tout. Il faudra sans doute un peu encore du temps pour avoir les archives, les témoignages, etc., pour pouvoir savoir exactement sur chaque épisode ce qui s'est passé. En tout cas, dans la guerre de 20 ans, on a essayé d'analyser ça au plus près, de manière la plus objective et neutre possible, en fonction des sources qu'on avait à l'époque. Alors, il y a des questions sur... Oui. Au CCI. Comment expliquez-vous le rôle ambigu du Qatar soupçonné de soutenir les mouvements djihadistes qui d'un côté apparaît comme un partenaire honorable de l'Occident? Tout va dans le même sens. Bon, merci, je prends. Les autres sont plus délicats et ça reprend les questions auxquelles j'ai partiellement répondu avant. Sur l'OCI, moi je suis pas spécialiste de l'organisation en tant que telle. Mon sentiment, c'est qu'a priori, il ne faut pas surestimer le poids d'une organisation comme cela. Et le soutien aux groupes extrémistes, alors tout dépend de ce qu'on appelle extrémiste. Encore une fois, ces organisations, et puis le Qatar aussi, qui est mentionné après, il faut voir la manière dont les djihadistes, Al-Qaïda et Daesh, décrivent ces organisations ou ces pays. Ils les prennent pour des ennemis, ils les prennent pour des traîtres. Le Qatar est plutôt associé à la mouvance des frères musulmans. Les frères musulmans, dans la bouche de Daesh, ce sont des apostats. Donc, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y a pas pu y avoir des soutiens, au moins de fondations, d'acteurs privés ou autres, peut-être même de l'État, mais moi, je n'ai aucun élément pour le prouver. Ça peut être alors, il faut étudier précisément les moments où il y a pu y avoir de tels soutiens. Si on parle de la Syrie en 2012, c'est pas pareil que de parler de la Syrie en 2015. C'est un élément, moi, sur lequel il y a des avis très tranchés là-dessus. Certains disent oui, c'était un double jeu, etc. Le fait est que on a fait un gros travail de recherche pour ce livre et on n'a pas réussi à trouver d'éléments vraiment probants sur une implication étatique de soutien à des groupes comme Daesh ou Al-Qaïda. On a peut-être loupé des choses, peut-être que des choses sortiront à l'avenir, mais à l'heure actuelle, les personnes qui expliquent ça, pour moi, sont plus dans une démarche d'affirmation d'opinion que véritablement dans une démarche scientifique avec des preuves et des éléments vraiment, vraiment tangibles. Mais voilà, peut-être que des choses m'ont échappé. Je vais m'arrêter là, en tout cas. Et puis, sauf s'il y a d'autres questions dans la salle, je ne sais pas, mais...
Il n'y a pas de regret,
un regret.
Allez, vous avez le dernier mot, et après on arrête.
Ils ne vous entendront pas en ligne si vous ne prenez pas le micro.
Merci. Une question, j'ai l'impression, mais je ne suis pas un spécialiste comme vous, que vous avez beaucoup parler du terrorisme d'origine sunnite. Or, depuis le retour de l'imam de Nouvelle-Fatou, il y a eu un terrorisme chiite qui existe encore actuellement, on l'a bien vu avec le Hamas, le Hezbollah, et qui depuis les années 80, c'est-à-dire depuis maintenant 40 ans, a développé des pratiques de terrorisme qui ont pu inspirer à la fois Al-Qaïda et Daesh. Qu'en pensez-vous ?
Alors oui, il y a eu un terrorisme chiite qui a frappé l'Europe, le Hezbollah après l'attentat de Bourgas il y a 10 ans. A été désigné aussi organisation terroriste, en tout cas pour la, je ne veux pas dire de bêtises là-dessus, je ne sais pas si la branche armée ou tout le groupe, mais enfin en tout cas l'attentat de Bourgas a été commis par une organisation chiite, ça ne fait pas de doute. Il y a eu du terrorisme aussi étatique qu'on a plus directement lié à l'Iran, avec un attentat déjoué à Villepinte il n'y a pas tellement longtemps, là, il y a quelques années, et le procès a eu lieu, il y a eu un procès en Belgique qui a conduit à l'incarcération d'un diplomate iranien. Donc ça, c'est vrai qu'il y a il y a la dimension, pour essayer d'avoir les idées un peu plus claires, il y a une dimension possible de proxy étatique, du terrorisme qui serait un moyen pour un État d'aller diffuser de la violence en passant par par le biais du terrorisme. Et puis, il y a ce qui pourrait être plutôt du terrorisme lié à la martyrologie chiite et qui serait peut-être moins directement lié aux intérêts d'un État, mais qui servirait à un groupe non étatique, mais avec des degrés de lien à l'État qui sont quand même discutés, évidemment, dans le cas du Hezbollah. Lien fort, certains disent très fort, d'autres disent autonomisation partielle du groupe, etc. Donc là encore, je ne suis pas spécialiste du Hezbollah, je ne peux que constater que parmi les gens qui écrivent sur le groupe, le degré de lien avec l'État est parfois discuté de manière assez forte. Donc cette menace, elle existe, elle a existé y compris en France, elle a conduit à la dissolution lors du dernier, enfin, du précédent quinquennat d'organisations chiites, notamment dans le nord de la France. Et donc c'est une menace qui existe, qu'il faut garder à l'œil, mais qui au cours des dernières années a quand même été beaucoup moins prégnante que la menace djihadiste internationale liée à des groupes sunnites comme Al-Qaïda et Daesh. Je vous en prie. Il y avait un message encore, je vais voir ce que c'est. Sinon, c'était merci beaucoup. Eh ben, très bien.
Ça permet de faire la transition.
Très bien.
Ouais, un très, très grand merci pour cet exposé brillant. Le nombre de questions, y compris en ligne, prouve que là, tout l'intérêt qu'on a eu pour vos propos, et puis tous les défis qui nous attendent, tant du point de vue sociétal que du point de vue de nos armées en opération, bien entendu. Et il y a une question à laquelle on ne répond pas ici, mais ça paraît difficile, c'est la réponse maintenant, la réponse, quelle est la réponse, j'allais dire, philosophique, idéologique, quel est le contre-discours que l'on peut avoir par rapport à ces discours, ces idéologies mortifères, mais qui attirent pas mal de gens quand même, donc c'est ça qui nous désassonne un petit peu, alors qu'on a l'impression qu'on a délivré une société du bien-être, etc., et des discours un petit peu mortifères qui attire une jeunesse en mal de sens, vraisemblablement. Et c'est là que c'est terrible, c'est que le djihadisme donne un sens, finalement, à l'action, à ces jeunes, un petit peu perdus. Et donc, il faudrait quand même qu'on se pose un jour la question du discours, du contre-discours, pour pouvoir contrer ces idéologies. Et ça, c'est vraiment un autre débat, mais qui me paraît essentiel dans l'avenir.
Je pourrais en parler, mais je ne vais pas le faire. Mais on s'est posé la question. Il y a eu des initiatives gouvernementales et privées de contre-discours, mais qui, pour le dire très vite, ont montré leurs limites.
Oui, il y a le discours politique, mais ça suffit. Oui, enfin bon, on ne va pas,
relancer la machine, parce que ça pourrait durer longtemps.
Mais je veux dire, à un moment donné, ces jeunes-là cherchent du sens, et nous, on ne leur donne pas de sens. Et pourquoi est-ce que ce discours prend plus que l'autre? Ça, c'est un vrai débat, en fait. Voilà.
C'est un vrai sujet d'étude.
Un vaste sujet d'étude. Voilà. Alors, un très, très grand merci pour votre intervention.
Au revoir à ceux qui sont en ligne.
Ah oui, bah là, il est...